France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les midis de culture consacrés aujourd'hui à l'écriture de soi, du désir, du plaisir, de l'amour et de ses fièvres, en compagnie de l'autrice Emma Becker. Elle a publié 6 ouvrages et autant de déclinaisons autour de sa vie amoureuse, depuis Monsieur en 2011, alors qu'elle avait 22 ans, jusqu'au Mal Joli, paru à la rentrée littéraire de 2024. Entre les deux, il y a eu Alice, La Maison, L'Inconduite et Odile l'été. Chacun révèle un pan de sa vie amoureuse et sexuelle. C'est La Maison qui l'a fait connaître du grand public en 2019. Elle y racontait à la première personne du singulier son expérience de prostituée au sein d'une maison close à Berlin. Et elle est avec nous aujourd'hui. J'avais envie de souligner en introduction un point commun entre plusieurs de vos livres. Emma Becker, il commence souvent au printemps. Et les histoires d'amour connaissent leur apogée au moment de l'été. Est-ce que vous voyez un lien entre la montée des températures et celle de la fièvre amoureuse ?
Ah bah alors écoutez, vous êtes la première personne qui me fait remarquer ça. C'est sans doute vrai. Probablement que oui, probablement que je suis assez sensible au retour de la lumière, au retour de la chaleur. Je pense que c'est après tout une disposition biologique complètement naturelle.
Avant de poursuivre cet entretien, Emma Becker, je vais lire le début du premier chapitre du Mal Joli. Il me semble a posteriori que tout allait bien lorsque j'ai rencontré Antonin pour la première fois. C'est déjà faire preuve de relativisme. M'aurait-on posé la question ce soir-là, cafardeuse et assommée d'herbe comme je l'étais, j'aurais eu un sourire triste et répondu qu'on m'avait déjà enculé plus aimablement. Ce qui était vrai. Toute une rentrée à se faire agiter des prix sous le nez, pour finir, comme c'est l'usage, avec peau de zob, et cette soirée où j'avais accepté de me rendre pour avoir l'air fair-play. Mais j'aimais mon mari, mes enfants éclataient de santé, le livre marchait. Je bourdonnais de projets, sans lever un doigt pour les mener à bien. L'important était qu'ils soient là, au chaud, dans ma tête, où personne ne pouvait me les prendre. Cette soirée interminable de remise d'un prix que je n'aurais pas, c'était fâcheux, d'accord, mais qu'est-ce que ça pouvait faire, à l'échelle de l'univers, ou à la mienne ? Sophie, mon attachée de presse, m'avait rejointe devant le restaurant. Une pluie grise déposée sur ses cheveux tout un halo de perles minuscules, ça la rendait plus jolie encore. Moi, je me sentais comme un chien mouillé, dont l'odeur incommode tout le monde. On attendait mon ami Benjamin, qui tardait à arriver, et au moment où j'avais dit « s'il n'est pas là dans 5 minutes, je m'en vais », Benjamin était apparu au bout de la rue. Derrière lui marchaient 2 autres gars, un éditeur et un écrivain, dont la bobine me disait quelque chose, ça ne m'intéressait pas tellement. Je me sentais laide, et quand je me sens laide, ça me rend méchante, indifférente aux autres. J'avais envie d'en finir avec ce pince-fesse, de retourner dans ma chambre, de me faire livrer un kebab et de fumer jusqu'à en oublier ma propre existence. Et là, c'est vous, Emma Becker, qui parlez, et tous vos romans vous mettent en scène, que vous parliez au jeu dans La Maison, L'Inconduite ou Le Mal Joli, ou d'une héroïne qui vous ressemble comme Ellie dans Monsieur, ou Alice dans le roman éponyme. Et cette héroïne est toujours en train de consacrer sa vie et son temps à écrire un roman très lié à sa vie intime. Qu'est-ce qui est venu en premier chez vous ? Est-ce que c'est le désir d'écrire, ou est-ce que c'est le désir d'aimer et d'être aimée ? Emma Becker.
Très bonne question. Je crois que les deux ont dû venir à peu près en même temps. J'ai commencé à écrire quand j'avais 11-12 ans. C'était à l'époque des histoires qui n'étaient pas au jeu. C'était toujours la troisième personne, mais c'était encore des personnages que j'essayais de remplir de traits de caractère qui étaient un petit peu les miens. C'était déjà une forme d'autofiction, mais qui ne se savait pas, qui ne se concevait en tout cas pas comme ça. En tout cas, je sais que j'ai commencé à écrire tout de suite sur les hommes, c'est-à-dire sur les hommes dont je tombais amoureuse. Mon tout premier livre était sur les Beatles, qui ont été ma première grande histoire d'amour. Et c'est vrai que déjà à cette époque-là, l'écriture me servait à m'inventer une vie avec une autre envergure que celle que je menais à 11 ans, 12 ans. J'avais très envie déjà de faire partie d'un monde dans lequel j'existais pour les hommes.
C'était un livre entier sur les Beatles, un vrai roman ?
Non, alors c'était un livre qui devait faire, je pense, à l'arrivée 200 pages que j'écrivais à la main. Mais à cette époque-là, mon gros problème, c'était que je commençais des romans et je crois que j'installais tellement mes personnages que peut-être je les épuisais tellement qu'au bout d'un moment, je m'essoufflais et je laissais complètement tomber l'entreprise. Et Pendant longtemps, j'ai cru que je n'arriverais jamais à finir un roman. Donc la première fois que j'ai réussi à mettre un point final pour Monsieur, ça a été pour moi un véritable miracle. Et c'est peut-être pour ça que je me suis dit, ok, bon bah voilà, maintenant je suis écrivain. Le fait d'avoir réussi à mettre un point final, c'était ce qui me séparait de cette condition.
Qu'est-ce qui a fait la différence avec Monsieur, avec ce récit d'un amour interdit qui vous amène au point final, enfin, d'un roman ?
Ben, je crois que la différence, peut-être, c'est que cette histoire m'était arrivée et donc que chronologiquement, je pouvais trouver un début et une fin. Je savais où j'allais. Contrairement à mes romans d'invention pure que j'écrivais avant, où, effectivement, comme je le disais, je me lassais et je n'avais plus de grandes idées sur comment occuper mes personnages. Là, en l'occurrence, c'était une histoire dont j'avais suivi le début, le développement et la fin. Et je crois qu'aussi ce qui a changé, c'était la raison pour laquelle j'écrivais. J'écrivais pour une raison précise qui était de continuer à parler à cet homme qui ne me parlait plus, qui m'avait complètement ghosté, comme on dit aujourd'hui. Et le fait d'écrire était une façon de me rappeler constamment à son attention.
Et le fait de publier peut être aussi une façon d'exister dans sa vie ou d'avoir le dernier mot d'une histoire.
Ah bah alors façon d'avoir le dernier mot, façon aussi de gagner tout simplement, parce qu'effectivement dans cette relation j'étais la grande perdante, j'avais été complètement abandonnée. Le fait d'avoir réussi à écrire un livre sur un homme, pas forcément à sa gloire, mais sur un homme, et de réussir à le publier et que ce livre devienne en fait pour lui une sorte d'épée de Damoclès pour l'éternité, enfin jusqu'à sa mort, était effectivement, je crois, une forme de vengeance, mais enfin une forme de réparation. Et pour moi, voilà, ça a été le coup d'envoi de ma carrière d'écrivain.
On vous voit beaucoup dans vos livres avec un crayon à la main, effectivement, comme vous venez de le dire, en train d'écrire dans un petit cahier. Plus tard, on vous voit dans Le Mal Joli avec un ordinateur. Comment est-ce que vous travaillez, Emma Becker ?
Alors effectivement, au début, je travaillais à la main et j'aimais beaucoup la sensualité de l'écriture à la main qui varie beaucoup selon les stylos que vous utilisez, selon le papier. Je suis assez fétichiste du papier et des crayons. Mais c'est vrai que maintenant, je travaille exclusivement à l'ordinateur. Je trouve que c'est un confort. Voilà, on n'a pas toute cette phase de brouillon qu'on retape après en recopiant le manuscrit. J'ai du coup un clavier que je trimballe absolument n'importe où. J'aime pouvoir travailler dans les cafés. Moi, je préfère travailler dehors, là où il y a du bruit. Le bruit et l'agitation me permettent de me créer une petite bulle, hein, bien plus efficace que si je suis seule chez moi dans le silence complet.
Vous n'êtes pas une romancière fétichiste du silence de cathédrale ?
Pas du tout, ça me perd au contraire.
Est-ce que vous arrivez à vivre des moments sans les traverser ou sans les penser comme d'éventuels futurs livres ?
Vous voulez dire, est-ce que j'arrive à vivre sans me dire que je vais l'écrire ?
Ouais. Probablement.
Oui, évidemment. Et la meilleure preuve, c'est que il y a quand même énormément de choses de ma vie que je n'écris pas. Il y a tout un tas de moments que l'on traverse et qu'on traverse sans songer à les écrire. Et c'est précisément ce que j'appelle vivre, moi, vraiment. C'est quand on est capable de vivre une journée sans se dire, tiens, je vais en faire un chapitre. C'est ça, pour moi, écrivain, que d'être réellement vivante, c'est d'être libérée de cette envie d'écrire. Et en même temps que je vous dis ça, je me rends bien compte que je ne me sens jamais autant vivante que quand j'ai vécu quelque chose que je peux écrire après. C'est très étrange, je pense, la manière qu'a un écrivain d'être situé dans sa propre vie. Je crois que les moments qu'on n'écrit pas sont les moments qu'on est trop occupé à vivre pour avoir une quelconque réflexion dessus. Et j'inclus dedans les moments de bonheur simple avec les enfants, ou avec son conjoint, les moments effectivement qui sont peut-être un peu trop simples à décrire, comme les moments de bonheur ou de chagrin, ce sont effectivement des moments qu'on traverse sans avoir l'impression d'avoir quoi que ce soit à en dire.
Donc un moment réussi, c'est un moment qu'on n'a pas envie de coucher sur le papier.
Si c'était si simple que ça. Je pense simplement que en tant qu'écrivain, j'ai pris le pli très tôt de confondre l'ennui et le bonheur. C'est-à-dire que quand je ne me sens pas vivre, tout simplement parce qu'il n'y a en moi aucune émotion contradictoire ou adverse qui pourrait me donner envie d'écrire, j'ai l'impression qu'il ne m'arrive rien. Mais en fait, c'est peut-être tout simplement que je suis paisible. Et j'ai beaucoup de mal à considérer que le fait d'être paisible n'a peut-être rien à voir avec le fait de s'emmerder. C'est ça qui fait que j'écris, je crois. C'est cette confusion dans ma tête entre la tranquillité et l'intensité.
Donc ce premier roman, Monsieur, racontait l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 46, qui est un ami de son oncle, qui est chirurgien, qui est brillant, et puis qui va la manipuler, exercer sur elle quand même une forme de pouvoir. Et mais ce qui les rapproche au début, c'est leur amour pour la littérature érotique. C'est comme ça qu'elle rentre dans l'univers de cet homme, en lui parlant de Cala Ferté, de Bataille, de Mandiargue. Quels sont les auteurs qui ont fait votre éducation, à vous, Emma Becker?
Alors, je dirais de façon beaucoup plus classique Maupassant, que j'ai lu très jeune et que je continue à relire parce que je trouve qu'il y a vraiment, il y a à boire et à manger dans Maupassant. Mais je dirais tout à fait, enfin de manière tout aussi importante, le bédéiste Jean-Marc Reiser ou Villemain. En fait, j'ai été très éduquée par des hommes, je dois dire, par une littérature beaucoup plus masculine que féminine. Et j'inclus dedans les écrivains, j'inclus les gens qui font de la BD, mais j'inclus aussi les réalisateurs. Bertrand Blier a été un réalisateur très important pour moi. Le regard si particulier qu'il porte sur les femmes, et qu'on aurait tendance aujourd'hui à qualifier de sexiste ou de machiste, moi, m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup informée sur les malentendus qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Je dirais aussi Philippe Roth, Nicholson Baker, et Françoise Rey aussi, qui est peut-être ma plus grande référence féminine, qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui, pour moi, fait la jonction, parfaitement la jonction entre littérature blanche et érotisme.
Et dans Le Mal Joli, vous évoquez beaucoup le philosophe Alain, qui est abondamment cité. Pourquoi lui?
Alors, peut-être tout simplement parce qu'il est simple à lire et que j'ai toujours, moi, eu beaucoup de mal à me plonger dans la philo en général. Mais quand j'ai découvert le livre d'Alain, j'étais en seconde à l'époque, j'avais été très saisie par la limpidité de sa langue. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lire un Maupassant qui aurait décidé d'être un peu plus pratique, un peu plus pragmatique. Je trouve très rassurant de lire Alain en se disant qu'on est en train de lire de la philo, mais qu'on n'a pas l'impression de fournir un effort intellectuel.
Est-ce que vous essayez de ramener dans votre panthéon littéraire, cinématographique, des femmes en vous apercevant justement que vous en lisez ou vous en regardez moins ?
Non, j'ai jamais ressenti ça comme une nécessité, c'est-à-dire que effectivement, je sais que mon éducation a été majoritairement faite par des hommes. Simplement, je ne trouve pas qu'il y ait besoin pour compenser de me forcer à lire ou à regarder ce que font les femmes. Je n'aime pas tellement ce pli qu'on a de vouloir compenser l'abondance de témoignages masculins par une espèce de lecture d'autrice féminine au forceps, juste pour essayer de rétablir un équilibre. Je trouve ça un petit peu infantilisant. Il y a beaucoup de femmes que j'aime, que je respecte, que j'admire énormément, mais je ne me sens pas le besoin, parce que moi je suis une femme qui écrit, d'avoir forcément des références littéraires féminines. C'est-à-dire qu'un auteur ou une autrice m'intéresse pour ce qu'il ou elle écrit, mais pas pour son genre ou son sexe.
La liberté toujours, Emma Becker. Il est souvent question de musique dans vos romans. Dans le tout dernier, dès les premières pages, vous écoutez Common Eileen des Dexys Midnight Runners. La bande-son d'une époque où il me semble avoir vécu un bonheur tranquille, l'écrivez-vous dans Le Mal Joli, Emma Becker. Le son et l'émotion sont-ils chez vous inextricablement liés ?
Oui, je dois dire que j'y pensais là en écoutant la chanson. La musique, c'est pour moi vraiment une troisième manière de vivre. C'est-à-dire qu'il y a la vie réelle, ensuite il y a l'écriture qui est un rapport de cette vie, un peu biaisé forcément. Et puis il y a les moments où j'écoute de la musique et qui sont des moments où je ne travaille pas, disons que je ne suis pas en train d'écrire, mais c'est les moments où je peux vraiment m'inventer comme ça à cru, à chaud, la vie que je n'aurais jamais. C'est-à-dire exactement comme quand j'avais 11 ou 12 ans et que j'écrivais ces romans sans queue ni tête, où j'étais des femmes que je n'étais absolument pas. La musique me permet de devenir comme ça au hasard une personne qui danse par exemple, parce que moi je danse pas, j'ai une incapacité physique à danser. Pourtant quand j'écoute de la musique et que je marche inlassablement dans les rues de Paris, j'imagine que je danse. C'est une espèce de c'est une vie en plus, et je suis incapable de faire 500 mètres sans musique dans la rue. C'est pour moi c'est la plus grande émotion, c'est vraiment la plus grande émotion de ma vie, la musique.
Et la bande-son est le déclencheur d'un autre destin pour vous, Emma Becker, l'imagination d'une autre femme?
Oui, complètement. C'est-à-dire que... Mais un petit peu comme l'écriture. C'est-à-dire, j'essaye de me décrire de la manière la plus honnête et la plus exhaustive possible quand j'écris. Mais je me rends bien compte que même ce semblant d'honnêteté est encore une illusion, une projection. Ce que je deviens quand j'écoute de la musique, ça, pour moi, ça fait partie de mon journal intime. Ça fait partie des choses que je n'écris pas. Et pourtant, il y aurait un soulagement pour moi de dire, aussi pathétique que ça puisse l'être, quand j'écoute de la musique, je m'imagine en train de danser, je m'imagine au milieu d'une foule d'hommes qui ne regardent que moi. Ce sont mes petits fantasmes de gamine qui aura pour toujours 12 ans, je pense.
Et alors, au milieu de ce faisceau de références cinématographiques, musicales, littéraires, Emma Becker, quand et comment est-ce que vous avez trouvé votre propre voix ?
Ça s'est fait en écrivant. Vraiment, je n'ai pas trouvé tout de suite ma voix. Le premier livre, Monsieur, était facile pour moi à écrire au jeu, parce que c'était le premier roman, j'avais pas conscience que j'allais être lue, on l'écrit toujours dans une forme d'impunité. Le deuxième, Alice, pour le coup, je l'ai écrit à la troisième personne, et alors que tout en moi avait envie de l'écrire à la première, mais je crois que parce que j'écrivais sur ce sujet extrêmement sensible qui était l'amour que j'avais pour mes parents, un amour contrarié, frustré, colérique, j'avais très peur de ce que mes parents allaient en penser, j'avais très peur de ce qu'on allait penser de ce que je disais de moi, et je me suis servi de la troisième personne comme une espèce de paravent un peu illusoire, et j'ai toujours cette impression que si le deuxième n'a pas marché, c'était parce que je me suis moi fourvoyée dans une voix qui n'était pas la mienne. Après, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, Alice, et j'y trouve des choses qui moi me parlent encore, mais je crois qu'il y avait peut-être un malentendu et que cette troisième personne n'était de fait pas imaginée pour moi. Et dès le troisième roman, je suis repassée au jeu et c'est devenu un franc jeu et massif que je n'ai plus envie de changer, qui me convient parfaitement.
Nous sommes avec l'autrice Emma Becker. On parlait de votre voix à l'instant, la façon dont vous l'avez découverte, ce jeu retentissant. Et vous avez une voix à la fois très littéraire et très sincère, mais souvent aussi très crue. Qu'est-ce que c'est pour vous une belle phrase, une phrase réussie? Et à quel moment est-ce que vous savez dans le processus d'écriture que vous en tenez une?
Ah, ça c'est très compliqué. Il faudrait déjà réussir à expliquer ce que c'est qu'un écrivain en train d'écrire. Je me pose souvent la question, est-ce que c'est une forme de transe? Est-ce que c'est un inconfort de ne pas savoir justement si la phrase qu'on est en train de pondre va être bonne ou pas? J'ai l'impression de faire tout ça un peu, pas les yeux fermés, mais effectivement dans un état de conscience où j'écris tout d'un jet, et ensuite ce travail de la relecture me permet de voir si ma phrase fonctionne ou non. Moi, j'ai une technique que j'utilise toujours beaucoup, notamment quand je donne des ateliers d'écriture, ce qui est mon cas à l'école des mots. Je conseille toujours de relire à voix haute. C'est ce que je fais pour mes propres textes, c'est-à-dire qu'en relisant à voix haute, on comprend sa propre musique et on voit si ça marche ou pas. Et donc, je procède un petit peu comme ça, à la relecture. Est-ce qu'il me semble que la phrase est assez ample? Est-ce qu'elle l'est peut-être un peu trop? Est-ce qu'il y a des redites par rapport aux phrases de là-haut? Précédente. Comment est-ce qu'on sait qu'on tient une bonne phrase? C'est une phrase que vous avez plaisir à tourner et retourner comme un joli objet que vous avez dans votre poche. C'est subtil. C'est un combat constant contre soi-même. Ce qui est très très compliqué, je trouve, quand j'ai envie d'écrire, c'est de réussir à attraper cette phrase qui était parfaite dans ma tête et de la rendre aussi parfaite sur le papier. On est son propre ennemi, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas faire confiance à son flux de pensées ininterrompues. On essaye toujours de la ciseler pour en faire quelque chose de joli. Et je pense que, ce faisant, parfois, on a tendance à perdre un petit peu la fulgurance du propos. Donc, trouver la bonne phrase, c'est trouver un moyen de se trahir avec lequel on est d'accord.
Ce qui est intéressant chez vous, Emma Becker, c'est la façon dont vous mélangez aussi les registres de langue. Dans la même phrase, on peut avoir un mot assez très littéraire, on peut avoir aussi quelque chose de beaucoup plus vulgaire ou ordurier. Vous jouez avec ça volontiers. Comment est-ce que vous dosez les choses, justement? C'est aussi de l'instinct là-dessus?
Alors, c'est de l'instinct et c'est beaucoup de lecture de mauvais bouquins érotiques. C'est-à-dire que moi, j'ai été assez frappée quand j'avais 15-16 ans et que je lisais beaucoup de littérature érotique du champ lexical qu'on trouvait notamment dans les bouquins érotiques écrits par des femmes. C'est-à-dire comme si on avait dit aux autrices pendant qu'elles écrivaient « Par contre, vous êtes gentille, mais vous essayez de trouver des mots un peu sympas, un peu poétiques pour décrire, pour décrire votre sexe, pour décrire votre corps, pour décrire ce que vous ressentez quand vous faites l'amour. » Et je n'avais pas du tout envie d'être dans ce registre de langage un peu contrit, un peu compassé, avec des histoires de fruits, de fleurs, d'animaux. Déjà parce que je trouvais ça très très kitsch, hein, et surtout parce que j'avais l'impression que un certain malentendu sexuel entre hommes et femmes se nichait justement dans la manière dont on nommait les choses. Je trouve que les rapports sont déjà suffisamment compliqués pour qu'en plus on se mettent à décrire nos intimités les uns aux autres avec des mots qui n'appellent pas un chat un chat. Ce qu'on appelle cru souvent dans ce que j'écris, et qui est en fait un langage qu'on pratique tous, c'est-à-dire bitchat, on sait tous ce que ça veut dire, ça ne choque plus personne. En revanche, quand on dit bite, on sait tous très bien de quoi on parle. Quand on dit chat, c'est exactement la même chose. En faisant ça, j'ai l'impression de pratiquer un langage sur lequel il ne peut y avoir aucun malentendu. À côté de ça, le sexe est pour moi un réservoir poétique immense. Donc je trouve que c'est toujours un challenge renouvelé que d'essayer de décrire une scène très graphique en le faisant de manière à la fois élégante, poétique, mais qui parle immédiatement à tout le monde. On sait très bien ce qui est en train de se passer. Et c'est bête comme chou, mais ça veut pas dire que c'est pas joli, c'est pas poignant. On peut tout à fait faire quelque chose de brutal et de poétique à la fois. On l'a vu dans tout un tas de bouquins, bien avant les miens d'ailleurs.
Vous nous invitez souvent à consulter votre correspondance amoureuse ou érotique avec certains hommes, de livre en livre. Est-ce que c'est important pour vous, justement, dans la vie et dans la littérature, d'inclure ces dialogues épistolaires cru, comme vous l'avez dit.
Je crois que selon les bouquins, ces correspondances avaient un sens différent. Il y a peut-être quelque chose qui relie toutes ces correspondances, c'est que la femme en moi, certainement, ne se remet jamais de pouvoir avoir été aimée comme ça par des hommes et d'avoir pu recevoir des lettres comme ça. Et évidemment que cette femme a envie que le monde entier le sache. Elle trouve ça merveilleux qu'on puisse lui écrire des choses pareilles. Alors, il y a quelque chose effectivement d'un peu narcissique, mais par exemple, dans Le Mal Joli, quand je mets la correspondance, c'est aussi pour rétablir une forme d'équilibre. C'est-à-dire que je pense qu'on sent très bien dans ce que j'écris, moi, la naissance du malaise, c'est-à-dire l'inconfort d'aimer cet homme alors que je suis déjà mariée avec des enfants. Et je le soupçonne, lui, toujours d'avoir une vie beaucoup plus facile. Donc, le fait d'avoir mis sa correspondance à lui aussi était une manière de montrer que lui aussi, son existence commence à le serrer un petit peu aux entournures. C'est pas une manière de me faire mousser, c'est une manière tout simplement d'exprimer de façon un peu plus frontale l'émerveillement de pouvoir être aimée par ces hommes que j'aime aussi.
Certaines pages dans Le Mal Joli, notamment sur les sentiments compliqués, parfois un peu douloureux que vous inspirent vos deux fils, ont été, dites-vous, les plus durs à écrire. Et vous nous avez donné à voir, Emma Becker, à savoir beaucoup de choses sur votre intimité, votre sexualité, votre vie affective. On peut même parfois avoir l'impression de savoir presque tout de vous. Est-ce qu'il existe dans votre œuvre une part d'autocensure, un moment où vous vous dites « là, je ne peux pas y aller, ça, je ne vais pas pouvoir l'écrire ».
Non, je vous avoue que ça m'est jamais arrivé encore. S'il y a des choses que je n'écris pas, c'est que je n'ai peut-être pas encore trouvé ce qu'il y a de poignant et de nécessaire à décrire là-dedans. Je n'ai jamais eu l'impression de me mettre à nu en me décrivant dans des scènes pourtant très graphiques, pour une raison assez simple qui est que je crois avoir compris très tôt pour une femme, montrer son corps, son intimité, sa capacité à plaire aux hommes, en tout cas à se plier à leurs désirs, c'était exactement ce qu'on attendait de moi. Donc j'avais l'impression, en faisant ça, de ne rien faire d'autre que mon métier de femme. Je n'avais pas l'impression de me révéler particulièrement, parce que le corps des femmes tel qu'on le conçoit aujourd'hui encore, il appartient à tout le monde. En revanche, ce qui m'appartient à moi et ce que j'ai de plus précieux, ce sont effectivement notamment l'amour pour mes enfants, que je trouve à la fois tellement fragile et tellement au-dessus de tout, et les sentiments parfois très paradoxaux qui peuvent me prendre justement en pensant à mes enfants, à quel point je peux en avoir ras-le-bol et pourtant je ne peux pas vivre sans eux. Ça fait une semaine qu'ils sont plus avec moi, je ne sais pas quoi faire de mon temps alors que je passe ma vie à me plaindre constamment que j'en manque de temps. Ça, ce sont effectivement les endroits où je situe ma pudeur. L'amour pour mes parents, et c'est pour ça que dans Alice, j'écris à la troisième personne, et l'amour pour mes enfants, et c'est pour ça que ce sont les pages les plus compliquées pour moi à écrire dans Le Mal Joli. Mais je ne me censure pas, je n'en ai pas ressenti la nécessité, parce que il n'y a aucun de mes livres dans lequel je parle d'un homme que je n'aime pas. Je n'ai jamais écrit sur un homme que je détestais et que j'avais envie de détruire. J'écris sur les hommes parce qu'ils m'ont parfois blessée, parfois énormément blessée, mais tout de même je les ai aimés et c'est pour ça que j'écris sur eux. Donc non, il n'y a pas d'autocensure, il y a juste peut-être le fait que je n'ai pas encore trouvé l'utilité et l'angle pour parler d'un sujet.
Vous écrivez sur les hommes, Emma Becker, dites-vous, mais le grand sujet de votre littérature, finalement, ce sont les femmes.
Ouais.
Être une femme, être une mère, être une fille.
Oui, c'est vrai. Mais alors, très longtemps, j'ai cru que j'écrivais sur les hommes, effectivement, parce que un des livres fondateurs pour moi, ça a été La mécanique des femmes de Louis Calafert. Et l'ayant lu à 15 ans, j'avais été très frappée par ce regard qu'il portait sur les femmes, que je comprenais pas trop. Mais je savais que, ce que je sentais là-dedans, c'était l'amour. L'amour, la fascination. Et j'avais très envie, moi, d'écrire un livre comme ça sur les hommes. J'avais très envie même que ce livre s'appelle La mécanique des hommes. Et très longtemps, j'imaginais mon rôle d'écrivain comme un espèce de chantre qui parlerait des hommes, de leurs forces et puis aussi de leurs faiblesses. Et ce faisant, je me suis aperçue qu'en réalité, je ne parlais pas tant des hommes que le regard que je pose sur eux, le besoin que j'ai d'eux et qui parfois n'est pas un besoin très sain, qui parfois est même pathologique, c'est-à-dire que j'ai vécu une bonne partie de ma vie complètement asservie au regard des hommes, à leurs désirs, mais j'en ai tout à fait conscience. Donc je me suis aperçue qu'en réalité, je ne faisais guère que parler de moi, parler aussi peut-être de mes contemporaines, en tout cas c'est ce que j'espère.
Le sexe, au fond, le plaisir, c'est la seule chose qui compte en ce monde, affirmait Alice, votre double de 23 ans, Emma Becker à 36 ans. Vous pensez toujours la même chose ?
Je suis pas loin de penser la même chose, effectivement. Je pense que... Mais ce que je veux dire dans Alice par le plaisir, j'entends là l'anéantissement, c'est-à-dire le spasme, l'orgasme. À 36 ans, je trouve effectivement qu'il n'y a rien de plus important que l'amour. Ça paraît complètement con, mais c'est la vérité. Il n'y a rien que l'amour. Et la meilleure preuve, c'est que quand tout va mal, même moi, qui pourtant ai écrit certaines pages un peu brutales sur mes enfants et sur la maternité, il m'arrive toujours de me dire, mais tant que les enfants vont bien et tant que j'ai mes enfants et une voiture dans laquelle on peut habiter, tout ira toujours bien.
Il n'y a rien que l'amour. Merci beaucoup, Emma Becker, pour cet entretien et ce rappel.
Un amour comme le nôtre,
il n'en existe pas deux.
Ce n'est pas celui des autres,
c'est quelque chose de mieux.
Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire.
À mon regard, tu vois tout ce que je désire.
Pourquoi demander aux autres
un roman plus merveilleux,
un amour comme le nôtre?